France Info.
Et bienvenue dans Les Informés, votre demi-heure de débat, de décryptage autour de l'actualité politique. En votre compagnie, Aurélie Herbebon. Bonjour Aurélie.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et avec ce matin, Audrey Tison. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Journaliste au service politique de France Info et bonjour Louis Osalter.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service politique du Figaro. Nous allons effectivement décrypter l'actualité du moment puisqu'elle vient de se passer il y a quelques minutes. Vous avez pu le suivre sur France Info. Aurélie Herbebon, c'était la prise de parole de Sébastien Lecornu juste avant de recevoir les oppositions à Matignon.
Effectivement, le Premier ministre a pris la parole il y a quelques minutes, lui qui se montre discret depuis son arrivée à Matignon, deux interviews en presse écrite, mais les Français n'avaient quasiment pas entendu le son de sa voix depuis son bref discours de passation de pouvoir avec François Bayrou. Mais ce matin, avant de recevoir toutes les oppositions, chacune leur tour, eh bien, Sébastien Lecornu avait un message très important à faire passer. Il renonce à utiliser le 49-3 qui permet de faire adopter des textes et le budget sans vote, ce qui obligera au compromis avec l'opposition.
Ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'on va y arriver, que pour y arriver, il faut qu'évidemment chacun ait envie d'y arriver, et dès lors que le gouvernement ne peut plus être en situation d'interrompre les débats, il n'y a donc plus aucun prétexte pour que ces débats ne démarrent pas la semaine prochaine.
Sébastien Lecornu se prive donc ce matin d'un outil qui est utilisé depuis 2022 pour systématiquement tous les budgets, même à l'époque d'Elisabeth Borne où c'était une majorité seulement relative de macronistes à l'Assemblée et évidemment a fortiori depuis l'an dernier et la dissolution. Clairement, ce matin, c'est difficile de savoir dans ce contexte à quoi va ressembler la copie budgétaire pour 2026.
Et puis, c'est difficile de savoir, Louis Osalter, à quoi vont ressembler les débats parce que on saute un petit peu dans l'inconnu. On n'a pas de majorité et donc plus de 49-3, comme l'expliquait Aurélie Herbebon.
C'est un renversement total. En général, c'est le gouvernement qui écrivait la copie au début du processus. Ensuite, elle passait dans les arcanes du Parlement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ensuite, effectivement, à la fin, grâce au 49-3, le 49-3 avait non seulement l'avantage de passer en force, mais aussi permettait au gouvernement de réécrire intégralement la copie qu'il voulait à la fin de la discussion. Donc, c'était facile.
Précisons qu'effectivement, le 49-3 permet
de faire le tri des amendements.
On choisit ce qu'on garde et on choisit ce qu'on enlève.
Exactement. Donc, la copie de départ et la copie d'arrivée se ressemblaient forcément. Et surtout, le gouvernement avait la main. Là, effectivement, si Sébastien Lecornu tient cet engagement et à supposer que le débat budgétaire commence, parce que on n'est pas encore là, je rappelle qu'il y a des motions de censure qui seront examinées la semaine prochaine, avant donc tout début du commencement de la discussion budgétaire. À supposer que ça commence, ce que vient de dire Sébastien Lecornu donne la main à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Parce que si le texte passe par les deux chambres, comme tout texte étudié par le Parlement, à la fin, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire où des députés et des sénateurs sont chargés de mettre les deux chambres d'accord. Bon, ça s'est plutôt mal passé les dernières fois. En tout cas, les discussions étaient très tendues. Et ensuite, le gouvernement, grâce au 49-3, faisait passer sa copie. Là, s'il n'y a plus de 49-3, la Constitution prévoit que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot à la fin. Or, l'Assemblée nationale, c'est cette Assemblée éclatée, partagée en trois, sans majorité.
Ça donc, obligerait virtuellement les parlementaires à se mettre tous d'accord entre eux et à arriver à trouver des points de convergence.
Qui est une copie faite par une Assemblée qui est éclatée sans majorité.
Audrey Tison, là-dessus, on a eu Boris Vallaud tout à l'heure qui nous disait, donc le président des députés socialistes, qui nous disait « Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe parce que le gouvernement a toujours d'autres moyens de contraindre le Parlement ?»
Ah oui, parce que ce n'est pas parce qu'on refuse, qu'on renonce à ce fameux article 49-3 qu'il n'y a aucun moyen de contraindre les débats parlementaires. Il parlait notamment du vote bloqué, quand le gouvernement propose de voter en masse un article dans son intégralité pour ou contre, sans pouvoir commencer à l'amender, à y faire des modifications. Il y a le jeu de l'article 40 aussi, qui empêche un simple parlementaire de pouvoir créer une dépense sans mettre l'équivalent en face, les rentrées d'argent qui vont en face. Et là, c'est généralement à la discrétion de la présidente de l'Assemblée nationale, qui reste Yaël Braun-Pivet, Renaissance. Donc, on voit que, on parle quand même à un chef du groupe PS à l'Assemblée, donc Boris Vallaud.
Il y a une petite habitude.
On la lui fait pas. Il est à l'Assemblée depuis un bout de temps et voilà, il est tout de suite en train de voir les détails, ce qui se passe derrière le discours. Voilà, le discours, c'est un véritable geste en direction des socialistes. Rappelons que l'abandon du 49-3, c'était une revendication des socialistes. Ils avaient mis ça vraiment dans le top de leur demande, de leur ligne verte, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, Sébastien Lecornu fait véritablement un pas en direction des socialistes. On voit que les socialistes sont encore beaucoup sur la retenue. Ils se posent encore beaucoup de questions sur leurs autres demandes. La justice sociale, hein, on lui aura dit non pour la taxe Zucman. Mais qu'est-ce qu'on va proposer exactement en face? Il y a encore beaucoup d'interrogations. Il y avait la question des retraites. On a bien compris que ça n'allait pas bouger de manière majeure, pas de suspension de la réforme des retraites. Donc du côté du PS, écoutez, on va en savoir un petit peu plus dans la matinée, puisque les socialistes vont être reçus là dans quelques instants à Matignon.
Absolument.
Et donc vers midi, on devrait avoir de nouveau un débrief de la part des socialistes.
Aurélie Herbemont.
Les socialistes, ce matin aussi, ce qu'ils disent, ils avaient beau réclamer que Sébastien Lecornu n'utilise pas le 49-3, et eux-mêmes promettre de ne pas utiliser le 49-3 s'ils arrivaient à Matignon. Mmh. Sauf que ce que disent certains ce matin, à l'instant qu'ils m'envoient des messages, c'est que si le gouvernement ne renonce pas à l'article 40, on va éviter de trop rentrer dans la
alors, tambouille parlementaire. Alors, dites-nous, c'est ce que nous expliquait Audrey Tison. Si on crée une dépense,
vous ne pouvez pas créer n'importe quelle dépense sans la gager. Donc, ça peut être
sans la gager, c'est-à-dire sans trouver une ressource.
Sans trouver une recette. Et on sait qu'à chaque fois, la baguette magique des parlementaires, c'est on augmente l'assise sur le tabac. Toujours. Sauf que les taxes sur le tabac.
Ce qui est une astuce
à chaque fois que tous les parlementaires utilisent. Mais c'est pas non plus un puits sans fond pour tout financer. Donc ils disent voilà, si on lève pas certains verrous, ça peut être un leurre. Et puis surtout, les socialistes en termes d'affichage voulaient qu'il n'y ait pas de 49-3 et promettaient ne pas de l'utiliser. Mais vu la configuration de l'Assemblée, imaginons effectivement à l'Assemblée, il y a une majorité de députés de la gauche et du RN pour faire sauter les 64 ans de la réforme des retraites. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas aussi une majorité à l'Assemblée pour mener des réformes qui, là, pourraient ulcérer les socialistes? Par exemple, s'il y avait une modification de l'aide médicale d'État, une diminution donc des soins qui pourraient être remboursés pour les étrangers en situation irrégulière, là, vous avez peut-être une partie des macronistes, la droite et le RN qui pourraient le voter. Donc, le résultat de la copie budgétaire, au final, certains le disent, ça peut être un musée des horreurs.
Voilà, alors
149.3 qui nettoierait tout ça.
Exactement. Donc le 49.3, justement, on a interrogé Boris Vallaud, le président des députés socialistes, tout à l'heure sur cette antenne. Il est dubitatif, c'est peu de le dire, on l'écoute.
Le Premier ministre appelle au compromis, mais au moment où nous allons le rencontrer, il ne nous en propose aucun. C'est quand même baroque. Cette promesse d'un compromis futur et cette incapacité, alors que voilà 3 semaines qu'il consulte, à nous en proposer aujourd'hui. Parce que moi, je sais ce qu'il a envoyé au Conseil d'État comme projet de budget. Et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Monsieur Bayrou.
Alors, est-ce que dans ces circonstances, dans ce contexte, Louis Osalter, où on a donc plus de 49-3, est-ce que, effectivement, comme le dit Boris Vallaud, la nécessité de trouver un compromis, ce qu'il appelle de ses voeux, elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est nécessaire de le trouver en amont, ce compromis, où il peut se faire au Parlement?
Normalement, ça devrait être au Parlement, ne serait-ce que pour que les Français, l'opinion, le voient. Et je ne vois pas pour l'instant, vu l'état des discussions, et Sébastien Lecornu a lui-même concédé dans son allocution qu'elles étaient très compliquées, je ne vois pas comment il serait trouvé avant. L'annonce de ne pas utiliser le 49-3, c'est quand même une manière de se décharger de sa responsabilité. Certes, Sébastien Lecornu est un Premier ministre sans majorité. Mais un, il a accepté d'être Premier ministre. Deuxièmement, Emmanuel Macron a voulu nommer un Premier ministre issu de son propre camp, alors même qu'il n'a plus de majorité depuis la dissolution. Or, le 49-3, il ne faut pas oublier que s'il est dans la Constitution, c'est pour certaines raisons, et notamment pour avoir un budget en fin d'année s'il y a un blocage parlementaire. C'est quand même utile pour les services publics, pour les administrations, pour le pays, qu'un budget en bonne et due forme soit voté au 31 décembre. Donc, le fait de se décharger, certes, c'est un gage donné au Parti Socialiste, c'est un gage qui est donné au Parlement, mais on ne décrète pas un changement de culture par une allocution un matin, un beau matin.
On a eu l'impression d'un décalage entre ce que les intentions affichées par Sébastien Lecornu et ce que nous répondait Boris Vallaud.
Oui, en plus. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un décalage, notamment pour la raison qu'évoquait Audrey, le fait qu'il y ait d'autres moyens dans la Constitution
certainement,
pour contraindre le Parlement. Mais si Sébastien Lecornu suit ce qu'il a dit, mais aussi l'esprit de ce qu'il a dit, c'est-à-dire de laisser agir le Parlement et d'abord l'Assemblée nationale, il devrait aussi limiter son usage de ses autres moyens. La question, c'est plutôt, ça fait depuis la dissolution que Emmanuel Macron et d'autres expliquent qu'il faut maintenant changer de culture, former des coalitions, avoir une culture parlementaire. Mais pardon, un changement de culture, ça ne se décrète pas. On ne va pas devenir l'Allemagne en 1 an et demi simplement parce qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, toutes les arrière-pensées de Boris Vallaud et autres, c'est évidemment l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui bloque le pays en ce moment, c'est que toutes ces écuries, tous ces partis préparent l'élection présidentielle parce qu'elles pensent à raison que c'est elle qui va trancher les grandes questions du pays, parce que la culture politique française, qu'on le veuille ou non, pour l'instant, c'est celle-là. Et donc, évidemment, tout cela ne pousse pas au compromis. Ça ne pousse pas au compromis de jouer des municipales dans 5 mois et une élection présidentielle dans 1 an et demi. Effectivement, aller chercher des compromis avec un gouvernement macroniste dirigé par un fidèle d'Emmanuel Macron en bout de course, effectivement, électoralement, quand on a des arrière-pensées électorales, ça n'est pas très porteur.
Justement, le compromis, Audrey Tison, là encore, on entendait les mots de Boris Vallaud tout à l'heure sur France Info. Bon, il évoque cette question du compromis tout en disant « Nous, on voudrait la taxe Zucman, la suspension de la réforme des retraites, mais on peut bouger là-dessus. » Donc, quel est le jeu du Parti Socialiste?
Ils ont déjà bougé parce qu'ils ont bien vu que la taxe Zucman, ça bloquait, qu'il y avait un certain nombre de blocages, notamment de la part du milieu de l'entreprise. Donc, ils disent « Ok ». Trouvons 15 milliards ailleurs. Ils attendent du gouvernement qu'il fasse une proposition pour pouvoir faire rentrer 15 milliards d'euros. Au passage, la taxe Zucman, les 15 milliards d'euros, c'est assez contesté, hein, selon les sources. Tout le monde ne pense pas que ça va engendrer les mêmes recettes. Un mot sur ce côté de la responsabilisation des oppositions. En fait, beaucoup estiment que quand on fait le 49-3, finalement, pendant des mois, les oppositions peuvent faire voter éventuellement des mesures, mais à la fin, le gouvernement repasse et utilise sa gomme et son crayon pour réécrire certaines mesures. L'année dernière, on n'en avait pas trop parlé, mais il y avait quand même eu les oppositions qui s'étaient unies, extrême gauche, extrême droite, en résumé, hein, pour supprimer ou baisser très fortement la contribution de la France à l'Union européenne. Mmh. Et d'ailleurs, un socialiste me disait, mais moi j'étais complètement contre, mais je ne pouvais pas lutter, parce que dans l'hémicycle, il y avait qui ? Le RN en force et LFI en force.
Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il va falloir que les parlementaires aillent tous siéger en permanence.
Exactement, parce que ça veut dire
ça
quoi ? Parce
long,
que si les extrêmes sont très présents et qu'on va dire un gros bloc central est absent, les extrêmes vont pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Et à la fin, le gouvernement n'aura pas sa petite gomme magique et son petit crayon magique pour réécrire le budget.
Et ça, c'est un alors sans doute un détail qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ça veut dire potentiellement que les discussions vont durer extrêmement longtemps. Mmh.
Ah ben oui, là ça veut dire parce que
c'est
le 49-3,
c'est des heures et des nuits de discussion.
C'est des heures et des nuits parce que le 49-3, ça permet d'abréger les débats au-delà de tout ce qu'on vient de dire sur le budget. Mais si vous faites pas de 49-3, ça veut dire qu'il faut étudier article par article, qu'il faut que les députés soient mobilisés du matin jusqu'à très tard dans la nuit. Comme il y a pas de majorité, vous pouvez vous faire avoir si vous êtes pas assez nombreux. Donc ça va être des débats interminables, très intenses, où il va tout le temps falloir que tous les camps soient présents pour éviter de perdre des choses, parce que dans cette assemblée éclatée, il suffit que vous ayez une partie des macronistes qui soit partie rentrer chez elle en disant de toute façon on va se perdre battre, c'est pas la peine d'être là. Ben si là en fait il faudra être pied à pied. Ça va être 2-3 mois intenses pour les députés qui devront faire le pied de guerre, quasiment tenir la tranchée. En fait c'est ça, tenir la tranchée pendant les débats budgétaires. Et on sait que depuis la dissolution depuis les derniers mois particulièrement, il y a quand même eu déjà 2 premiers ministres qui sont tombés. Beaucoup de députés ont la tête à une éventuelle nouvelle dissolution, donc sont beaucoup sur le terrain, en circonscription,
en pré-campagne.
Là, en fait, il va falloir revenir à l'Assemblée. Sinon, il suffit qu'une centaine de députés sur les 577 soient là à 2h du matin pour faire passer des choses pendant que les autres ne sont pas là.
Je finis mon tour de table quand même sur le Parti Socialiste, lui aux haltères. Aujourd'hui, à Matignon, est-ce que quand même, on peut se dire, à un moment donné, il va en sortir des choses ou il continue, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, mais un peu pour amuser la galerie, quoi.
En fait, ce qui est difficile pour le Matignon, c'est la division du Parti Socialiste lui-même. Parce que Boris Vallaud, qui était à notre place il y a quelques minutes, il est incapable de vous dire comment va réagir le groupe socialiste dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que dans les 66 députés de socialistes, il y a déjà ces 66 personnes différentes, et surtout, il y a des lignes très différentes. Il y a à peu près un tiers du groupe qui, de toute façon, veut censurer. C'est un peu une annexe de la France Insoumise et des écologistes. Hein. Ils les suivront plutôt sur une position très hostile au gouvernement Le Cornu, quel que soit les concessions affichées. Il y a une autre aile, plutôt représentée par François Hollande, qui au contraire est ouverte au compromis parce qu'elle veut éviter une dissolution, qu'elle veut que le Parti Socialiste ait le temps de préparer l'élection présidentielle. Et puis il y a un ventre mou dont on a du mal à capter les intentions. Et c'est ça qui est très difficile pour le Cornu, c'est de voir comment va réagir un groupe qui n'est pas très grand, 66 personnes sur 577 députés, mais qui est pivot, qui est vraiment décisif pour savoir si son gouvernement et son budget vont tenir ou pas. et dans lequel les membres peuvent avoir des réactions très différentes et qui n'est pas tenu par ses chefs, au sens où un député, bah, il fait ce qu'il veut. Et comme le disait Aurélie, il ne dépend pas de ses chefs à Paris. Et heureusement, il dépend de ses électeurs. Et il dépendra de ses électeurs, a fortiori, s'il y a une nouvelle dissolution.
Les informés, Aurélie Herbemont, Adrien Beck.
Et toujours avec Audrey Tison, journaliste au service politique de France Info, et Louis Osalter, journaliste au service politique du Figaro. Nous avons parlé de la gauche, Aurélie Herbemont, comment arriver à la convaincre de ne pas censurer le gouvernement. Il n'y a pas que la gauche dans la vie, il y a aussi la droite qui commence à s'agiter un petit peu.
Et oui, hier soir, après un rendez-vous à Matignon, le ministre de l'Intérieur démissionnaire et patron de LR, Bruno Retailleau, s'est fait menaçant dans le Figaro. Le compte n'y est pas. Selon lui, la droite ne veut pas entendre parler recyclage de l'ISF et réclame au passage des mesures qui n'ont absolument rien à voir avec le budget, comme le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Alors Bruno Retailleau fait passer ce message au Premier ministre. À ce stade, la participation de la droite au gouvernement n'est pas acquise du tout. Le député LR de Moselle, Fabien Di Filippo, était hier soir sur France Info.
L'ère de François Bayrou nous a montré que définitivement le « en même temps » était discrédité, n'était plus souhaitable. Que ce qui manque à ce pays aujourd'hui, c'est un cap. Si vous voulez régler les problèmes de sécurité, les problèmes fiscaux, les problèmes de dépenses publiques, il faut avoir un vrai cap. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui doivent montrer de la bonne volonté et être prêts à faire des concessions. Je vois le jeu que joue la gauche, c'est-à-dire demander plus, 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 toujours plus, et ça ne sera jamais assez.
Bref, LR fait aussi monter les enchères, car la droite ne veut pas se retrouver dans un gouvernement qui ferait trop les yeux doux aux socialistes. Le PS ne veut pas apparaître comme la béquille du macronisme. Eh bien, la droite non plus, et encore moins être obligée d'avaler trop de couleuvres pour plaire aux socialistes.
Alors, si on reprend le discours de Sébastien Lecornu tout à l'heure, Audrey Tison, il a évoqué donc bien sûr la justice fiscale, le pouvoir d'achat, la réforme des retraites et... À la fin, en petite ligne, j'allais dire, une mesure sur l'immigration. On imagine que c'est pour parler à la droite. Il pourrait s'agir de quoi ? On sait déjà.
Alors, on sait que, en tout cas, Bruno Retailleau pousse un certain nombre de mesures, et notamment l'allongement de la durée de rétention administrative. Vous savez, quand on veut expulser une personne qui n'est pas de... qui n'a plus de papier, qui on le met en centre de rétention administrative si on considère que cette personne est dangereuse. Et ça, c'est très limité dans le temps. Bruno Retailleau a essayé de faire passer une mesure il y a quelques mois. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Elle est en train d'être réécrite et elle va être proposée d'ailleurs par un député là qui est en train de déposer sa proposition.
Donc ça pourrait être une des propositions de Sébastien Lecornu.
Et donc Sébastien Lecornu pourrait... soit pousser cette mesure, du moins ne rien faire contre et permettre à Bruno Retailleau d'avoir cet acquis qui pourrait bien sûr aussi être voté par le Rassemblement National.
Louis Osalter, quand on entend les menaces à peine voilées de Bruno Retailleau, c'est sérieux ou est-ce que c'est du cinéma ?
Je crois que c'est sérieux sur le fond en tout cas, c'est-à-dire qu'à force de se focaliser sur le budget et de faire... tout ce qu'on a entendu sur la taxe Zucman depuis trois semaines, bah, en effet, on oublie les autres sujets. C'est-à-dire que les Français ont des sujets de préoccupation, parmi lesquels la sécurité et l'immigration. Et ça, la droite le fait entendre à raison. La question maintenant, c'est leur place dans le dispositif gouvernemental. Pardon, si je quitte le fond des sujets pour aller sur l'équation, le schéma politique, humain et parlementaire qui va voir le jour... Là, en fait, il y a une volonté de la droite de rester au gouvernement, parce que le parti Les Républicains, comme l'a révélé Le Figaro, a effectué un sondage début septembre, montrant que les sympathisants de droite et les sympathisants LR en particulier, sont favorables au fait que les ministres Les Républicains restent au gouvernement. Et notamment Bruno Retailleau, qui a pris la notoriété, l'ampleur politique, l'épaisseur politique que l'on sait depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc il y a plutôt une pression de la base, en tout cas un accord de la base électorale, pour que la droite soit au gouvernement. Mais là, la question qu'ils sont en train de se demander, c'est pourquoi faire ? C'est-à-dire, que fera un gouvernement Lecornu ? Or, tout le débat budgétaire, flou et incertain, qu'il est en train d'avoir. Sébastien Lecornu, c'était assez frappant dans ses premières interventions, et notamment sa première interview à la presse régionale, il disait pas un mot de sécurité, pas un mot d'immigration. Il préférait parler de décentralisation, un processus long, complexe, qu'il ne mènera sûrement pas à jour, parce qu'en réalité, il faut des années. Donc, il y a quand même ce rappel en disant, attention, n'oubliez pas ces sujets-là, nos électeurs nous le demandent.
Un tout dernier mot, Aurélie Herbemont, est-ce qu'on peut imaginer que la droite... puisse s'offrir, j'allais dire, le luxe de renoncer à des fonctions gouvernementales.
dans le fond, ils n'ont pas vraiment envie, car ils savent que c'est ça. Ils sont, certains ministres le disent, on est ressuscité depuis qu'on est au gouvernement. Mmh. Donc, ils n'ont pas très envie de quitter les ministères, mais pas pour faire n'importe quoi, parce que si c'est trop favorable aux socialistes, le Rassemblement National aura beau jeu de dire que c'est le retour de l'UMPS. Donc, les LR veulent être au gouvernement, mais pas à n'importe quel prix. Mais quand même, ils ont bien envie d'y être, puisqu'ils réclament un tiers des postes.
Un tiers des postes, d'ailleurs, c'est ambitieux, parce qu'aujourd'hui, ils sont bien en deçà.
Mais si gouvernement, en tout cas, dans les prochains jours, C'est ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre, qui continue en ce moment même ses consultations à Matignon. Merci à vous, Aurélie Herbemont, d'avoir été là ce matin. Merci Audrey Tison, service politique de France Info. Louis Osalter, service politique du Figaro. Et vous publiez la semaine prochaine La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite, aux éditions de l'Observatoire. On pourra évidemment en reparler. Merci à vous d'avoir suivi Les Informés.